d'abondance.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas comment a été votre semaine, si vous étiez dans un bon temps ou un temps d'épreuve, de difficulté. Moi, c'est un peu le cas dans le travail, mais je décide de louer quand même et d'adorer le Seigneur. Parce que louer et adorer le Seigneur quand tout va bien, c'est facile. Mais quand les choses vont mal et sont plus compliquées, c'est un peu plus difficile, mais le Seigneur est quand même là et il connaît toutes choses. Pour commencer, j'ai une petite question à vous poser, afin de vous réchauffer, parce que ce matin, c'est vrai, il n'y avait pas de chauffage. Donc voilà, alors ça va vous réchauffer. Sommes-nous appelés à enseigner toute la parole de Dieu? Ou existe-t-il des sujets tabous ou difficiles que nous devrions aborder avec prudence? À votre avis? Effectivement, nous sommes appelés à enseigner toute la parole ainsi que tous les sujets qui s'y trouvent. Alors voici une petite histoire amusante pour introduire notre thème de ce matin et peut-être le dédramatiser. Ainsi, vous allez vite saisir de quoi je vais parler ce matin et quel thème nous allons aborder. Un jour, un billet de 500 euros et une petite pièce de 1 euro discutaient. Le billet disait fièrement « Moi, je voyage partout. Je vais dans les plus grands restaurants, dans les grands hôtels, dans les grands magasins, et je vois des endroits luxueux. » La pièce répondit « Moi, je vais surtout dans les mains des enfants, dans les quêtes à l'église, et parfois dans les boîtes à dons. » Le billet sourit. À l'église, j'y n'y suis jamais allé. Je pense que vous avez une idée du thème que nous allons aborder ce matin. J'ai entendu. Oui, l'argent, le don. Mais lié à la foi, et ce matin on a parlé beaucoup de foi. Donc ce matin, nous allons effectivement explorer le thème de l'argent et du don. Non pas ce que moi je pense ou ce que j'ai pu être enseigné par mes parents, mais à la lumière de la parole de Dieu. Pour bien comprendre, nous regarderons dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'était la dîme. Ce que Dieu a enseigné sur la dîme dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous irons voir dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, voir ce que Jésus et ce que les apôtres ont enseigné sur le sujet. Et pour conclure, nous verrons l'impact et les conséquences spirituelles dans notre vie. Et nous verrons combien nous devons donner. Est-ce que cela vous intéresse de savoir combien faut-il donner ? Allez, ne faites pas les hypocrites, je suis sûr que c'est une question qu'on s'est tous posée. Combien dois-je donner? Alors, si vous écoutez bien à la fin, vous aurez la réponse. Pour bien comprendre l'enseignement sur ce sujet, nous devons regarder dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, ce qui est écrit. Alors vous verrez ce matin que vous allez participer parce que je vais vous poser des questions. Savez-vous quand est-ce que pour la première fois, il est parlé de dîme dans la Bible? Effectivement, Abraham, dès le livre de Genèse, il est parlé de la dîme. C'est lorsqu'Abraham, qui après avoir vaincu un roi qui avait emprisonné son neveu Lot, vint vers le roi Melchisédek pour donner la dîme de tout son butin. Alors c'était un acte spontané qui ne s'est produit qu'une seule fois. Et à cette époque, comme vous en doutez, il n'y avait pas encore la loi ou les commandements de Dieu. Ce sont des siècles plus tard, au mont Sinaï, que Dieu a établi la dîme comme une loi pour son peuple. Cette loi n'était pas universelle, elle ne s'appliquait pas aux autres nations qui entouraient Israël, mais elle s'appliquait au peuple de Dieu seulement. Autre question d'ailleurs, savez-vous combien de dîmes le peuple devait donner? Alors la dîme, déjà, oui, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire le dixième, 10%. Vous avez 100 animaux, vous en donnez 10. En fait, il y avait 3 dîmes à donner. Chaque année, le peuple devait apporter 10% de ses produits agraires et pastoraux au temple ou au tabernacle. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une enveloppe avec de l'argent, mais des récoltes, des fruits, des céréales et des animaux. La deuxième dîme était au fait annuel qui avait lieu chaque année, donc, et le peuple devait donner 10%, mais pour eux-mêmes. Je vous expliquerai. Et la troisième dîme, c'était une dîme triennale, c'est-à-dire que tous les 3 ans, les Israélites disposaient dans leurs portes 10% de leurs produits. Alors, pour les matheux, combien ça fait? Est-ce que ça fait 10%? Non, ça fait 23% que devaient donner les Israélites chaque année. Alors, justement, quel était le but de la dîme? Ou on devrait dire des différentes dîmes. Je me suis appuyé pour cela dans Nombre, chapitre 18, verset 20 au verset 32. On ne va pas le lire parce que le temps est court, mais pour ceux qui prennent des notes, c'est Nombre 18, verset 20 à 32. La première dîme était pour le sacerdoce lévitique. C'était le revenu de la tribu de Lévi. Pourquoi? Car c'était la seule tribu à ne pas avoir reçu de terre en héritage. Donc n'ayant pas de terre et n'ayant pas le temps de s'occuper d'animaux, ils ne pouvaient rien récolter. Mais ainsi, ils pouvaient se consacrer pleinement au service dans le tabernacle et plus tard dans le temple quand celui-ci fut construit. La seconde dîme, comme on l'a dit, c'était une dîme pour la fête, les fêtes qui avaient lieu chaque année. Donc c'était une dîme pour se réjouir et faire la fête en famille devant l'Éternel. Deutéronome, chapitre 14, verset 22 au verset 29. Il était permis à cette occasion aux Israélites qui habitaient loin de Jérusalem et que Dieu avait pleinement et beaucoup béni, de vendre leurs biens, leurs produits, leurs animaux, afin pourquoi? Il est dit pour faciliter leur voyage jusqu'à Jérusalem. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, Dieu est un Dieu pragmatique, et Dieu y pense à tout. Imaginez, vous êtes béni, vous avez 10 000 bêtes, du coup vous devez en amener 1 000, imaginez la caravane, la longueur de la caravane et les difficultés que ça peut engendrer. Dieu leur avait dit, prenez l'argent. Et une fois que vous serez à Jérusalem, vous acheterez les animaux, les produits nécessaires pour faire la fête. Dieu est un Dieu de fête. Eh oui, Dieu est un Dieu de fête. Si je ne me trompe pas, il y avait au moins 7 fêtes annuelles. Alors, une fête, c'est se réjouir, mais dans la présence de Dieu et devant Dieu. Donc, ils pouvaient acheter des produits. Et dans ce passage, il est marqué qu'ils pouvaient acheter du vin. Nous, les Français, nous sommes contents, non? Il est même dit des liqueurs fortes. Alors peut-être ça c'est pour les Anglais, je ne sais pas. Des bœufs, des brebis, il même dit des sushis et des chamallows. Je crois que vous ne me croyez pas. Eh bien, ouvrons la parole de Dieu dans 2 Théronome 14, le verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Je suis fan de sushi, les chamallows au feu de bois, c'est sympa. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà. Dieu, effectivement, demandait une dîme annuelle, mais pour que la famille en profite et fasse la fête en présence de Dieu. Et la troisième dîme servait à prendre soin des nécessiteux, à savoir les Lévitiques, les veuves, les orphelins et les étrangers. Alors chacune de ces personnes venait se servir dans les portes des Israélites pour prendre ce qu'ils avaient besoin et ce que les Israélites avaient mis à disposition. Comme nous avons vu, les dîmes servaient au sacerdoce lévitique, et donc cela avait du sens tant qu'existait ce sacerdoce. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir la loi parfaitement. À la mort de Jésus, tout a été ébranlé. Après sa résurrection et après qu'il soit monté à la droite de Dieu, en l'an 70, le temple a été détruit et ainsi le service lévitique s'est arrêté. Alors avant de voir l'enseignement dans le Nouveau Testament, je voudrais faire une parenthèse ici, mais une parenthèse qui, je pense, est importante. J'aimerais dénoncer et mettre en garde contre l'évangile de prospérité. Cet évangile qui déforme les Écritures pour culpabiliser les chrétiens, qui ne donneraient pas leur dîme chaque mois, et jusqu'à même les effrayer en leur disant qu'ils sont maudits. Et pour cela, ils utilisent un passage bien connu dans l'Ancien Testament, que vous devez connaître. Malachie 3, versets 6 à 12. Lisons juste les versets 8 et 9. « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Alors, pour bien comprendre un texte, il est important de le replacer dans son contexte et son contexte historique. Sous quelle alliance a-t-il été écrit ? L'ancienne alliance, donc l'alliance mosaïque. Le sacerdoce lévitique était donc encore pratiqué dans le temple. À qui s'adressait la prophétie de Malachie ? À votre avis ? Pour cela, il faut remonter au début du passage, au chapitre 1 et au verset 6. Vous lirez, et il est dit que cette prophétie s'adressait aux prêtres qui servaient au temple. Et une autre question pour bien comprendre, à quel moment Malachie a prophétisé ? Il a prophétisé après que le peuple de Dieu soit revenu de son exil de Babylone. Donc ici, Dieu rappelait à son peuple le besoin de la dîme pour le bon fonctionnement du sacerdoce lévitique. Mais Dieu reprenait aussi les prêtres qui offraient en sacrifice des animaux imparfaits pour se garder les meilleurs et ainsi s'enrichir. Dieu leur reprochait aussi d'offrir des aliments impurs. Tout ça, vous le direz, c'est marqué dans le texte. Et la dîme était aussi un marqueur à l'époque de l'alliance brisée. À chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait et brisait l'alliance, à chaque fois, bien sûr, il cessait de donner la dîme. Ces commandements ne s'adressent donc plus à nous, les chrétiens, qui vivons sous la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ. Jésus a été l'agneau parfait, de la même nature que nous, et en accomplissant la loi parfaitement sans jamais pécher, et en offrant son sort pour ôter le péché du monde, il a fait arrêter le sacerdoce lévitique. Et une des preuves bien connues, c'est lorsque Dieu déchira lui-même le voile dans le temple. Vous savez que le voile n'a pas été déchiré de bas en haut, mais a été déchiré du haut en bas, parce que c'était la main même de Dieu qui déchirait ce voile, qui mettait une séparation entre lui et les hommes. Ainsi, Jésus a ouvert un accès, un chemin direct vers le trône de Dieu. Paul l'a bien dit dans Galates chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce qu'il a bien dit, Paul ? Il a dit que si tu veux obéir à un seul commandement de la loi, tu dois obéir à toute la loi. Donc ceux qui veulent instaurer la dîme doivent aussi réinstaurer toute la loi, et non pas seulement ceux qui les arrangent. Malheureusement, certaines églises de nos jours imposent la dîme comme un impôt obligatoire et font reposer sur les chrétiens un poids de culpabilité. Mais cela contredit le message apostolique qui dit dans Romains chapitre 8, verset 1, qui je suis sûr vous connaissez tous, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Amen. Pour fermer cette parenthèse, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous avons été aussi rachetés de la malédiction de la loi. Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Donc ceux qui veulent faire croire qu'aujourd'hui nous pouvons être encore maudits se trompent et peuvent même mentir. Voilà, la parenthèse est fermée, mais je pense que c'était important d'éclaircir et de montrer ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Alors maintenant, voyons ce qu'il est dit dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, concernant la dîme, concernant les dons. Pour vous réveiller, une autre petite question. À votre avis, combien de fois Jésus a parlé de la dîme dans le Nouveau Testament ? Beaucoup moins. Il en a parlé une fois. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, c'est-à-dire la dîme, sans négliger le reste. » Ah oui, Thomas, mais tu as dit que Nouvelle Alliance, il n'y a plus de dîme. Et là, Jésus dit qu'il faut la pratiquer. Non, ce n'est pas ce que vous dites dans votre tête. On y arrive. On va expliquer. En replaçant une fois le contexte de ce verset pour mieux le comprendre. Alors, même question. À qui Jésus s'adressait-il ? Aux scribes et aux pharisiens. Jésus n'établissait pas ici la dîme pour l'Église, mais il dénonçait l'hypocrisie des pharisiens qui appliquaient la loi de la dîme dans le moindre détail jusqu'à partager et compter les herbes qu'ils avaient, les plus petites herbes, le cumin, la menthe, etc. Mais en négligeant ce qui était le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus n'était pas encore passé par la croix. Donc on viendrait, non ? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Jésus était encore techniquement sous la loi. Et comme nous l'avons déjà dit, Jésus est venu accomplir la loi dans sa globalité. Et c'est ce qu'il a fait à la croix quand il a dit « Tout est accompli ». Donc la seule fois où Jésus parle de la dîme, c'est dans la confrontation avec les religieux de l'époque. Effectivement, Jésus n'a pas ignoré la dîme quand il s'adressait aux Juifs de son époque, mais l'a mise à sa juste place, une partie de la loi qui était sur le point de s'accomplir en lui, à la croix. Sinon, Jésus n'a jamais parlé de dîme à ses disciples pendant son ministère qui a duré quand même 3 ans sur terre. Si la dîme devait perdurer dans la nouvelle alliance, je pense que Jésus en aurait certainement parlé sans détour. Jésus était capable de remettre en place tout le monde et je pense que si ce sujet-là devait perdurer, il l'aurait aussi très bien dit. Jésus enseignait en fait que pour les ressources, c'était un don total du cœur, à la générosité libre et un détachement des biens terrestres. L'exemple de l'homme riche dans Matthieu chapitre 19, verset 21, illustre bien cela. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus ne lui a pas dit « Donne 10% de ce que tu as et c'est OK ». Non, Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ». Jésus regardait à la générosité des personnes et pas à la quantité ou pourcentage que l'on pouvait donner à l'époque. Ceci est encore aussi illustré dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Un passage bien connu. C'est le passage où Jésus se met devant les troncs pour voir comment les gens donnaient. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ici, dans ce passage, Jésus loue cette pauvre veuve, car elle n'a pas donné un pourcentage, mais tout ce qu'elle avait pour vivre. À travers ce passage, nous remarquons la grande foi de cette veuve, car elle savait certainement que Dieu était la source de tous ses biens. Je vous rappelle qu'une veuve à l'époque, c'était comme si elle n'avait aucune ressource, puisqu'elle n'avait plus de mari pour subvenir à ses besoins, et qu'à l'époque, c'était très compliqué pour les veuves de travailler. Ce qui montre l'immensité de la foi de cette veuve. En Christ, l'exigence de la loi a été remplacée par un don volontaire et total, qui est le fruit de la grâce. D'ailleurs, si nous regardons comment vivait l'Église primitive, nous voyons que jamais les apôtres n'ont imposé un pourcentage. Mais nous voyons que tous les chrétiens vendaient ce qu'ils possédaient, le donnaient aux apôtres, afin qu'ils redistribuent cet argent aux pauvres et aux plus nécessiteux. Il est écrit qu'il n'y avait pas d'indigents. Acte 4, verset 34. Voyons ce que Paul a pu dire sur ce sujet dans 1 Corinthiens 9, verset 14. « De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. » Nous ne donnons pas une dîme pour soutenir ceux qui prêchent l'Évangile, mais nous donnons des offrandes volontaires et avec générosité pour les soutenir. Dans le Nouveau Testament, les finances sous la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ ne sont plus liées à la dîme, mais à une générosité volontaire proportionnelle à ses revenus. Et je rappelle, ouvrez bien vos oreilles, Jackie, tu fermes les tiennes, qu'il n'y a aucune obligation de donner dans la nouvelle alliance. Contrairement à l'ancienne alliance, parce que si on ne donnait pas la dîme, on péchait et on était en faute devant l'Éternel. Dans l'ancienne alliance, la dîme s'appliquait tant que le service lévitique se pratiquait dans le temple, il était demandé un pourcentage. Dans la nouvelle alliance, plus de temple, nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20, « Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Il ne nous est plus demandé un pourcentage, mais un don total non contraint et venant du cœur. Nous n'avons donc plus à entretenir et prendre soin d'un bâtiment, d'un temple physique, mais nous avons besoin de prendre soin de nos frères et sœurs dans le besoin, car ils sont le temple du Saint-Esprit. L'Église qui vit sous la nouvelle alliance n'a plus besoin d'accomplir la loi en payant la dîme au service lévitique, qui d'ailleurs n'existe plus. Mais elle est appelée à vivre dans le don total et la générosité, comme nous l'avons vu, pour soutenir ceux et celles qui se donnent à 100% à l'Évangile. Paul aussi, dans toutes ses épîtres écrites aux Églises, n'a mentionné de donner la dîme, c'est-à-dire un pourcentage, mais a expliqué le don dans la Nouvelle Alliance dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 et 9. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toute grâce afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Comme on l'a déjà dit, et comme on le voit ici, il ne s'agit plus de donner un pourcentage, mais de donner volontairement et généreusement, avec foi et amour. Les dons qui sont faits aujourd'hui sont un thermomètre de notre foi en Dieu et de notre amour pour Dieu. Je vous rappelle que les ressources que nous possédons tous, tout ce que nous avons, ne sont pas les nôtres, mais elles nous ont été confiées et données par Dieu. Qu'est-ce que nous sommes, en fait, nous, en tant que chrétiens ? Nous sommes des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié et donné. Alors, c'est bien plus que de l'argent que Dieu peut nous donner. C'est aussi notre maison. C'est aussi notre voiture. C'est aussi... Mettez ce que vous voulez derrière, mais tous les biens qu'on peut posséder aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on en fait ? Bien sûr que c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous qui les possédons, et on peut en jouir. Mais qu'est-ce qu'on en fait aussi pour le royaume de Dieu ? Alors pour conclure, on va arriver à la fameuse question. Restez encore éveillés. Nous avons dénoncé la mauvaise interprétation de Malachie. Mais une fois que l'on a fait cela, ce n'est pas pour autant que la leçon de Malachie ne s'applique pas à nous. Elle nous rappelle que notre fidélité à Dieu se manifeste aussi par l'utilisation de nos biens dans la générosité. Charles Spurgeon a dit « On ne mesure pas la grâce de l'homme à la quantité qu'il donne, mais à ce qui lui reste. » L'exemple concret de Jésus avec cette veuve et les riches qui donnaient énormément. Nous ne sommes plus liés par la loi, mais par la liberté de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. Et là, vous dites, chouette, on n'a plus 10% à donner. Mais c'est mal comprendre la grâce. Parce que la grâce est bien plus exigeante que la loi. Car elle ne réclame pas une petite partie de nous-mêmes ou de ce que Dieu nous a confié. Mais la grâce exige la totalité de nos vies. L'Église primitive n'a pas mis en place la dîme comme une norme, mais a plutôt enseigné que le don est la preuve de notre amour pour ceux et celles qui sont dans le besoin et pour le soutien du ministère de la parole. Une autre citation de Charles Spurgeon, et je suis complètement d'accord avec ça, il a dit « Si l'obéissance naît de la peur, ce n'est pas de l'obéissance, mais c'est de la servitude. » La question est de savoir, avec l'aide du Saint-Esprit, combien puis-je donner pour le royaume de Dieu? Combien dois-je réserver pour ma maison? Parce que Jésus lui-même a aussi dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Vous voyez l'équilibre de Jésus dans tout ce qu'il a pu enseigner? Il ne s'agit pas de sortir, d'aller tout vendre, non. Il faut aussi avoir la sagesse, demander la sagesse, afin de savoir combien voilà réserver pour notre maison et combien dois-je réserver pour les nécessiteux. Le discernement que nous demande le Seigneur se reçoit dans la prière, dans notre relation avec Dieu de tous les jours par le Saint-Esprit et la lecture de la parole. Nous ne donnons pas pour recevoir, mais nous donnons parce que nous avons reçu. Et dans cet acte de générosité, nous expérimentons la générosité de Dieu par la foi. L'acte de donner ce que Dieu nous a confié est aussi un acte de foi, d'amour et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, qui est la source de tous nos biens. D'ailleurs, petite parenthèse, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu ne nous réclame pas notre argent. Tout ce qu'on a lui appartient déjà. Donc on voit bien que Dieu n'attend rien de nous. Ce qu'il attend, c'est de voir si on est capable de mettre notre foi en lui en donnant une partie en reversant une partie de ce qu'il nous a donné. Donc c'est bien plus que donner de l'argent lorsque nous donnons des offrandes, lorsque nous participons à des associations pour soutenir des nécessiteux, mais c'est un vrai acte d'adoration. Nous ne sommes plus des esclaves de la loi, mais des serviteurs de la grâce. Nous ne vivons plus dans la peur de la malédiction, mais par amour pour Jésus qui nous a sauvés, afin que nous appartenions à son corps. Ne donnons pas pour suivre des règles ou par légalisme, parce que nous reconnaissons que tout est à lui et pour lui. Si l'Église agit ainsi, elle ne manque de rien, car Dieu pourvoit à tous ses besoins selon ses richesses. Richesse en gloire, Philippiens 4, 19. Alors pour terminer, ne donne pas car tu te sens contraint, mais donne parce que tu aimes. Ne donne pas pour éviter la malédiction, mais donne pour étendre la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Luc 12, 34, là où est ton trésor, là et ton cœur. Alors, pour vous réveiller, venons à la question qui nous taraude depuis le début. Combien devons-nous donner? Alors, à votre avis, après tout ce qu'on a entendu, vu, oui. Alors moi j'ai noté, nous devons rien donner, dans le sens qu'il n'y a aucune contrainte et obligation à donner. Et comme je l'ai dit, que Dieu n'a pas besoin de notre argent, car tout lui appartient déjà. Mais nous donnons effectivement ce que notre cœur décide avec joie, sans tristesse et sans aucune pression. Si Jackie vous met la pression, venez me voir. C'est une blague, Jackie. Je t'aime. Si tu peux donner que 5 euros, Dieu ne te condamne pas. Dieu voit ton cœur. Si tu peux donner davantage, fais-le avec joie et gratitude, car Dieu t'a béni et tu bénis en retour les autres. Si aujourd'hui tu ne peux pas donner car tu te trouves dans une situation critique, et quelques-uns le savent ici, j'ai été dans cette situation pendant des années, alors reçois avec joie et sans culpabilité. Pourquoi ? Parce que l'Église n'est pas une entreprise où seuls ceux qui donnent ont le droit de participer à la vie de l'Église. Mais nous sommes une famille qui aide ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes une famille qui nous aidons les uns les autres. Alors voilà la générosité de la nouvelle alliance. Notre foi pour Dieu ne se mesure pas à un pourcentage, mais à la générosité que nous donnons par amour, avec joie et sans contrainte. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu nous as parlé de tous les sujets, de tous les thèmes. Et c'est vrai qu'en France, parler d'argent est tellement tabou, parce que culturellement, il faut être discret, et puis il faut socialement être tous de même niveau. Mais Seigneur, toi tu as parlé des choses afin de libérer l'être humain de malédiction, de poids, de contrainte. Tu dis dans ta parole que la vérité nous rendra libres, et c'est ce que tu as fait même sur ce sujet, Seigneur. Nous savons que tu n'attends rien de nous parce que tout appartient déjà, mais qu'à travers nos actes de générosité, Seigneur, tu attends de voir notre foi, où est-ce qu'elle en est. Tu attends de voir si nous dépendons de ta grâce, de tes ressources, de toi-même, ou si nous comptons sur nous-mêmes, Seigneur. Alors Seigneur, merci de nous aider à saisir et comprendre que la grâce demande plus que la loi, mais sans contrainte, mais avec joie, avec générosité et par amour pour les autres, et surtout par amour pour toi, Seigneur. Parce que tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné le souffle de vie à chaque jour afin d'être en bonne santé, pour aller travailler, subvenir aux besoins de notre famille et subvenir aux besoins de ceux qui prêchent l'Évangile, des nécessiteux et des pauvres, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu pragmatique aussi, que tu fais toutes choses à la perfection, tu es un Dieu d'ordre et tu n'abandonnes pas la veuve, tu n'abandonnes pas l'orphelin, tu n'abandonnes jamais ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Mais tu attends à travers le corps de Christ que nous manifestions, Seigneur, ta générosité. Alors aide-nous, Seigneur, dans ce domaine à être libres, Seigneur, afin que là aussi nous puissions refléter, Seigneur, ton amour. Non pas parce que, Seigneur, nous voulons être vus par les hommes, mais simplement parce que nous voulons que tu reconnaisses notre foi. Alors, Seigneur, merci encore pour mes frères et sœurs que tu as bénis richement. Merci encore de les bénir davantage. Merci pour mes frères et sœurs qui sont dans les difficultés, qui sont, Seigneur, peut-être dans des moments critiques de leur vie, financièrement parlant. Aide-nous à les soutenir, à être généreux, Seigneur, parce que nous voyons que dans l'Église primitive, il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre, parce que chaque frère et sœur avait le cœur tourné vers les autres. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante encore aujourd'hui et parce que ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est d'avoir un cœur ouvert et généreux, Seigneur, et non plus tomber dans le légalisme, Seigneur, de la loi parce que tu l'as accompli parfaitement. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.